Bonsoir. Alors, ce que j'ai vu dans le chat, il y a déjà, est-ce qu'un trauma peut démarrer in utero? Tu m'entends, Maria?
Oui, je t'entends. Je répète la
Ok.
question. Est-ce qu'un trauma peut commencer in utero, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, bah oui, bien sûr. C'est l'exemple que je citais tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire avec à l'hôpital de Genève, la mise en évidence que la petite fille, enfin la fille née du viol, récupère le trauma. Plus récemment, j'étais avec une personne il y a 2 jours qui, elle, situe son trauma par la perte de son jumeau dans le ventre de sa maman. Et donc, avec le test musculaire, on arrive à retrouver que c'est effectivement aux alentours de 6 mois que ça s'est passé. Quand elle en parle à sa maman, elle dit effectivement, autour de 6 mois, j'ai eu des saignements, et voilà. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais pour la personne, en tout cas, elle est vraiment persuadée de ça. Donc, on peut travailler directement avec l'EFT sur ce trauma-là. Donc, pour répondre à cette question d'une manière très claire, oui, bien sûr, ça peut démarrer in utero. Ensuite, j'ai noté une autre. Tu les poses les questions ou je les
Mais si tu
pioche dans
en
le chat?
as, vas-y, parce que ça défile, donc j'envoie certaines. Vas-y, si tu en as récupéré quelques-unes, on va continuer
Alors,
comme ça.
oui, ce que je voulais dire également, c'est que le cadeau que j'ai fait pour les personnes qui achètent le pack du congrès, c'est un enregistrement MP3 qui est sur l'installation des ressources. Alors, cet enregistrement, en fait, permet aux personnes de se laisser complètement guider. C'est un enregistrement qui dure 13 minutes. Volontairement, je l'ai fait assez court pour qu'on puisse l'écouter assez facilement dans la journée quand on en a besoin. Et on dirige, j'accompagne les personnes, justement, avec, bah, il y a ma voix, avec une très légère musique qui soutient le texte, à justement faire le travail qu'on a fait tous les deux. Donc, je l'ai testé depuis une semaine et je dois dire que ça fonctionne plutôt bien. Et justement, la personne avec laquelle je travaillais et qui avait énormément d'émotions, parce que dans sa vie actuelle, il y a tout un enchaînement d'abandon, en fait, qui rappuie sur cette blessure in utero, qui est en fait un premier abandon, celui de son jumeau. Et son retour est vraiment très très positif quant à l'installation des ressources. Ça lui a vraiment permis de s'apaiser. Et donc, en fait, quand on installe ces ressources, on a tout de suite un sentiment que bah, ça va mieux. Et à partir du moment où ça va mieux, on va pouvoir commencer à travailler après sur bah, des situations du présent qui sont difficiles, et puis revenir aux ressources et faire des allers-retours comme ça entre du positif et puis des situations un peu difficiles. Et ensuite, on pourra remonter au trauma passé, comme j'expliquais tout à l'heure.
D'accord. Donc cet MP3, cet audio de 13 minutes est une exclusivité du congrès virtuel qui est offert avec les packs.
Absolument. J'ai noté également une personne qui disait pourquoi j'ai eu autant d'émotions pendant la ronde qu'on a accompagnée, alors que je me rappelle pas de mes traumas, et donc elle pose la question de savoir pourquoi est-ce que je me souviens pas de mes traumas. Eh bien, en fait, c'est une fonction de protection. Le cerveau, au moment du trauma, va encapsuler le souvenir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, quand on essaye d'y repenser, c'est un petit peu comme si ce souvenir difficile avait été placé dans une capsule, et le cerveau bah, suit la ligne de temps, se rappelle de quelque chose, et quand il arrive au début du trauma, c'est comme s'il zappait tout d'un coup le trauma. Donc, on arrive bien souvent à occulter des moments très difficiles qu'on a vécus, mais le problème, c'est que si au présent, on vit une situation qui contient les mêmes marqueurs que ceux, enfin les mêmes éléments qu'on a connus quand au moment du trauma, par exemple un regard, par exemple, pourrait jouer un rôle de déclencheur. Eh bien, le regard du présent, par exemple d'une personne lambda, peut nous ramener au trauma d'origine. Et donc, on ne se rappelle pas de l'événement, mais en revanche, on expérimente les émotions négatives qu'on a vécues à ce moment-là. Ce qui fait qu'on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je devrais pas réagir comme ça et pourtant je peux émotionnellement, je suis complètement activé. Donc si on se rappelle pas de notre main, c'est parce qu'il y a une bonne raison, c'est parce que notre cerveau a décidé de nous protéger. Voilà.
Oui, et le fait de commencer à faire de l'EFT peut commencer à le réveiller, en fait.
Oui.
À déterrer un peu ce trauma qui a été encapsulé, comme tu disais tout à l'heure.
Ben, alors, le fait d'avoir travaillé tout à l'heure en disant « même si j'ai une bonne raison, etc. », c'est vrai que ça a tendance à activer de l'émotion parce que, quelque part, on se rapproche un peu, quoi. Donc attention si la personne elle est toute seule et qu'elle travaille comme ça, mais bon, à la limite, son cerveau va continuer à faire son travail de protection. Il y a peu de chances qu'elle débouche sur quelque chose, mais elle profitera bien d'écouter le MP3 et de continuer à installer des ressources. Alors, je vois qu'il y a des questions sur des troubles bipolaires, schizophrène, etc. On va pas rentrer dans le détail de ces pathologies, mais ce qu'on peut dire rapidement, c'est que si on travaille avec des personnes bipolaires ou avec des personnes schizophrènes, premièrement, il faut être un professionnel de la santé mentale, parce que c'est vraiment des pathologies et ça ne souffre pas l'amateurisme. D'autre part, il faut que ces personnes soient stabilisées. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à travailler sur un schizophrène, par exemple, qui prendrait pas de traitement, parce qu'on risque là de faire décompenser les personnes. Et donc, c'est bien sûr que c'est possible de travailler avec ces personnes. Généralement, ce sont des psychiatres qui le font, et avec des personnes qui sont correctement médicamentées et suivies. Et bon, j'en connais beaucoup qui travaillent en institution. Voilà. Donc, attention à ne pas faire n'importe quoi.
Oui, tout à fait. Alors, Sylvain pose une question intéressante. Enfin, il y en a plein d'intéressantes, hein, mais je relève celle-là. Les traumatismes se transmettent-ils d'une génération à l'autre et l'EFT permet-il de libérer cette mémoire pour les générations futures? Quel est ton point de vue par rapport à ça, Jean-Michel?
Alors, répète, si ça se transmet, parce que j'ai déjà répondu à ça, si ça se transmet d'une génération à l'autre, c'est-à-dire, moi j'hérite des traumas de ma mère, et est-ce que je vais les transmettre à ma fille? Je pense que c'est ça le sens de la question.
Voilà, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un qui a pris la conférence en route qui n'a pas entendu l'exemple okay. Avec la grand-mère, la fille et la petite-fille, effectivement.
Oui. Alors déjà, oui, on peut se nettoyer avec l'EFT des traumas dont on a hérité de nos parents ou de nos grands-parents, voire même avant. L'idée, c'est de couper le lien et les loyautés familiales. Ça, c'est un grand classique en EFT. Et si la personne se pose la question, mais est-ce que je pourrais éviter de contaminer, on pourrait dire, mes enfants? Alors, bien sûr, en se traitant elle-même au présent, si elle n'a pas encore eu d'enfants, eh bien, elle évitera de le passer à sa progéniture. Et si elle a déjà eu un enfant, eh bien là, dans ce cas-là, elle travaillera avec son enfant. Ou enfin, il faudra travailler sur l'enfant. Voilà.
D'accord. Alors, peut-on libérer sans connaître dans le détail? Peut-on libérer un trauma, je comprends, sans connaître les détails?
Oui. En fait, on observe que souvent ça se passe comme ça. Il y a des personnes, par exemple, on commence une séance de EFT et puis la personne n'a pas de souvenirs, pas d'images, mais en revanche il y a énormément d'émotions, et quand on essaye de lui demander mais qu'est-ce que vous ressentez, elle peut tout à fait nous le dire au niveau des sensations physiques. Elle peut également nous parler de l'émotion, de l'intensité de son émotion. Elle peut nous dire même ce à quoi elle pense en ce moment, elle se sent en danger, etc., mais il n'y a pas d'image. Dans ce cas-là, eh bien, on peut travailler sur les sensations corporelles, sur l'émotion, et petit à petit diminuer ça. Et en fait, on s'aperçoit qu'on arrive à résoudre certains types de problèmes sans même être passé par la case « je dois me rappeler de mon trauma ». Ce qui n'est pas plus mal, ça permet d'éviter de se retraumatiser en retrouvant l'image. Souvent, les gens retrouvent les images et puis, ben voilà, après, on fait le traitement.
Oui, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne. Vous n'avez pas forcément besoin d'aller fouiller dans les poubelles du passé. on ne va pas ressasser des traumas encore et encore. On peut les traiter à une certaine distance de sécurité.
Ben, en fait, les neurosciences mettent en évidence que plus on maintient. En l'an 2000, Eric Kandel, qui est un médecin, a eu le prix Nobel de médecine parce qu'il a mis en évidence une particularité du cerveau, c'est que plus, si on entretient une pensée pendant une heure, on double le nombre de connexions synaptiques en rapport avec cette pensée. Ça veut dire que si on a un trauma, qu'on en parle, qu'on en reparle et qu'on n'arrête pas d'en parler, en fait, on le renforce.
Oui,
alors,
parce que pour le cerveau, c'est la même chose.
Eh bien, pour, voilà, c'est ça. On tisse des connexions synaptiques entre les neurones. Donc, on a intérêt à faire du tapping si on en parle. Que, en fait, ce qu'on fait avec EFT, c'est qu'on expose la personne à son trauma. Donc, en fait, on active une réponse de stress et en même temps, on stimule les points d'acupuncture. Donc, c'est un peu comme si, pour le système nerveux autonome, on appuyait sur le frein et l'accélérateur en même temps. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va faire caler la machine et en fait, il y a une distanciation qui va se faire par rapport au trauma. On va retisser des nouvelles cognitions, des nouvelles pensées, mais ce coup-là, beaucoup plus positives. Et c'est comme ça qu'on va arriver à la fois à prendre de la distance par rapport au trauma et à la fois à changer ces processus de pensée. Alors, je regarde d'autres questions.
Il y a une question de pseudo Christ. Que se passe-t-il si on tapote sans parler sur un problème particulier?
Alors, on n'est pas obligé de parler de son problème à voix haute. Hein. L'idée de base, c'est d'entrer dans l'émotion. Donc, si on parle de son trauma ou de son problème, c'est généralement pour s'associer à ce problème. Maintenant, si on a en tête son problème, qu'on y pense et qu'on est déjà en train de pleurer, ça ne sert à rien de parler. Au contraire, il faut se taire. Enfin, si en tout cas, si on est thérapeute et qu'on accompagne quelqu'un qui est en train de parler de son trauma, on va lui demander de faire une pause et simplement de faire du tapping. L'idée, c'est qu'on a besoin de l'émotion, mais on n'a pas besoin de la souffrance. Donc, autant que faire se peut, on va essayer de rester dans une zone de confort émotionnel, si on peut dire ça. On va pas rentrer trop fort dans l'inconfort. Donc, effectivement, si vous ressentez déjà de l'émotion, faites du tapping. Parce que, voilà, ça veut dire que vous êtes dans votre, en train de repenser à votre trauma, donc vous êtes associé. Et si vous ressentez quelque chose, vous êtes associé. Et donc, c'est là que ça fonctionne.
Oui, tout à fait. Antares pose la question, comment trouver une ressource de sécurité quand nous n'en avons jamais vraiment eu?
Alors, c'est une très bonne question et je vous conseille vivement d'écouter l'enregistrement que j'ai fait. Parce que, en fait, on va commencer à se centrer sur des ressources qu'on aurait déjà en nous. Mais c'est vrai, vous faites bien de le signaler, c'est que des fois, on n'en a pas. C'est-à-dire que, en tout cas, on n'en a pas du tout le souvenir. Donc, dans ce cas-là, la ressource, on va l'imaginer. On va, par exemple, on va reprendre un souvenir qu'on a vu dans un film. On pourrait imaginer aussi une personne qui serait capable de nous aider. Cette personne, ça pourrait être une figure mythique, une personnalité très connue, quelqu'un qui inspire de la sécurité. Ça pourrait être Mère Teresa, par exemple. Et on va imaginer qu'on est en contact avec cette personne. Ou alors, on peut avoir une ressource plus symbolique. Par exemple, moi, j'en utilise une parce que je rentre d'Égypte il n'y a pas très longtemps où j'étais nager avec des dauphins. Moi, ma ressource, par exemple, c'est le dauphin qui nage à côté de moi et je regarde son œil. Pas besoin d'avoir forcément vécu ça, on peut juste l'imaginer aussi. Donc, on peut se créer des ressources, même imaginaires, même si on ne les a pas vécues. Donc ça,
oui,
c'est un bon moyen. Un conseil, c'est que quand vous pensez à un lieu de ressources ou à des choses comme ça, eh bien, prenez vraiment quelque chose qui vous fait monter vraiment très fort en émotion positive. Voilà.
D'accord. Donc un moment fort, qu'il soit vécu ou bien imaginaire, si on n'en trouve pas.
Absolument. Et donc ça, c'est clairement expliqué dans le MP3. Hein.
Super. Le MP3 qui est donc offert en bonus pour les personnes qui choisissent d'acheter le pack privilège ou platinium.
Oui, absolument. Je
Merci.
vois une personne, Mamoun, qui dit que, elle s'est mise à bâiller, qu'elle est très étendue. Eh ben, c'est effectivement un effet de l'EFT quasi immédiat, puisqu'en fait, en stimulant les points d'acupuncture, eh bien, on active la branche parasympathique du système nerveux autonome, qui est en fait la branche qui est la plus stimulée lorsqu'on dort. Donc, c'est la branche qui nous permet de récupérer. Effectivement, ça détend tout de suite, quoi.
C'est ça. Oui, c'est vrai que c'est presque un réflexe quand on fait de l'EFT, de bâiller, ne soyez pas étonnés. Il y a d'autres réactions, on peut avoir des gargouillis, je
Des petits
connais quelqu'un qui a
flottements
tendance à
dentaires.
rôter, c'est moins
C'est moins
classe, mais
glamour.
ça marche aussi.
C'est moins glamour, mais effectivement, on le constate.
Voilà. Bon, une dernière question, Jean-Michel, il va falloir qu'on libère la salle pour la conférence suivante.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut choisir, hein, parmi toutes ces questions?
Eh bien, je te laisse le choix.
Eh bien, ça sera Éthèse. Peut-on travailler avec les traumatisés crâniens? Quelle est ton expérience avec ça?
Des personnes qui ont eu des traumatismes crâniens, bah oui, on peut entrer. Bah, mon expérience, j'ai pas eu d'expérience avec grand monde en la matière. Moi, j'ai eu deux traumatismes crâniens. Quand j'ai fait ma procédure de paix personnelle, j'ai retravaillé sur le souvenir, sur ce qui s'était passé, sur les circonstances de l'accident. Donc, avec une personne qui a un traumatisme physique, soit crânien ou autre, si cette personne a des séquelles physiques, eh bien, on peut directement cibler le problème tel qu'il se présente. Ça peut être des maux de tête, par exemple. Et en complément de ça, il faudra revenir sur les circonstances de l'événement, parce que peut-être qu'il va y avoir des émotions qui sont associées à ça. Il pourrait y avoir moi, j'ai eu un traumatisme en jouant au rugby et un autre, un accident de mobylette. Donc, on peut, par exemple, se refaire le film de ce qui s'est passé au cours de son accident. Peut-être qu'il y a de la culpabilité parce qu'on se dit, bah ouais, mais j'avais pas mis mon casque, alors, etc. Ou peut-être que ça peut être de la colère vis-à-vis de l'autre personne qui nous a fait avoir cet accident. Ou, voilà. Donc, il faut vraiment penser à traiter tous les aspects qui peuvent être en rapport avec le traumatisme physique. Voilà.
C'est ça, c'est le pack traumatisme dont tu parlais tout à l'heure. En fait, ça rejoint la même idée. On
Ben, en fait,
peut, dans ce cas-là, rentrer par la porte physique.
oui, on entre par le symptôme parce que si le symptôme est présent, si j'ai un mal de tête, c'est clair que je vais travailler sur le mal de tête. Maintenant, si j'ai des migraines récurrentes et que je veux travailler sur ma migraine mais qu'elle n'est pas présente, je ne vais pas sentir grand-chose. En revanche, je pourrais travailler sur la peur d'avoir à nouveau ces migraines. Je pourrais travailler sur le désespoir que j'ai à ne pas pouvoir me libérer de mes migraines. Donc, c'est-à-dire que on cible d'une part le problème physique, mais d'autre part tout ce qui environne le symptôme physique. Et une chose aussi importante, c'est de demander à la personne ce qui se passait dans sa vie au moment où est arrivée cette douleur. Donc, si c'est un traumatisme crânien, il y a peut-être eu un accident, mais il y avait peut-être aussi des circonstances particulières de vie de cette personne. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra retravailler aussi chacune de ces circonstances et chacun des aspects dans les circonstances. Donc, en fonction de ça, ça peut être plus ou moins long, quoi. Voilà.
D'accord.
Il est
Mais
29,
merci,
je
merci
libère
beaucoup
la salle.
Jean-Michel.
Eh bien, merci à tous les auditeurs, merci pour tous les encouragements que j'ai pu voir dans le chat, et puis ben, à très bientôt.
Merci Jean-Michel.
Au revoir à toutes
Merci, merci.
et à tous.
C'était un enregistrement du congrès virtuel francophone de l'EFT. Pour en savoir plus sur cet événement annuel, rendez-vous sur le site www.lecongrès-eft.com. À très bientôt!